Et si c'est la guerre des continents, hein, je préfère partir tout doucement, hein, chercher dans l'amertume un petit bout de terre brune, creuser mon îlot désert des insulaires. Solitaire, bloqué dans l'empire des célibataires.
T'attends la femme corsaire, t'attends la louve des mers, belle naufragée qui viendra s'échouer sur l'insularité
pour aller se dorer toute l'année, loin des remous du temps, loin des cités d'argent. Accueillir tous les gens sans terre, tous les bannis du continent, avec ma drôle d'affaire, tout recommencera comme avant. Et si c'est la guerre des continents, je préfère partir tout doucement. Chercher dans l'amertume un petit bout de terre brune, creuser mon îlot désert des insulaires. Et si c'est la guerre des continents, je préfère partir tout doucement. Chercher dans l'amertume un petit bout de terre brune, creuser mon îlot désert des insulaires. Oh désert des insulaires. Oh désert des insulaires.
Vous écoutez Principe Actif sur le DAB+.
Vuelve a abrir tus ojos y construye ese paisaje, esa fuente de vida para beber en el mar. est 7h en temps universel, 10h à Beyrouth. Merci d'écouter RFI.
RFI Matin.
Le journal international avec vous, Martin Gaze, et à la une, le retour contrarié des déplacés libanais.
Qui attendent une paix durable pour pouvoir se réinstaller et reconstruire une vie détruite par la dernière guerre du Liban. Débutée le 2 mars entre le Hezbollah et l'armée israélienne, mise sur pause depuis 3 jours. Mais le cessez-le-feu est très fragile, de nombreux accrochages ont eu lieu, ce qui n'a pas empêché les déplacés de la ville de Tyr de rentrer chez eux. Reportage à suivre dans un instant. Nous serons aussi dans ce journal au Soudan du Sud, où 500 000 Soudanais ont fui la guerre civile et ont trouvé refuge chez leurs voisins du Sud, notamment dans le grand camp de Gorom, proche de Djouba, un camp qui manque de tout. On vote ce dimanche en Bulgarie, pays d'Europe de l'Est, en crise économique, en crise politique. Scrutin législatif, le 8e en 5 ans. Et puis enfin, grand week-end de sport, notamment en football. Choc XXL en première ligue anglaise, Manchester City, Arsenal, on ne fait pas mieux. Les Gunners aimeraient se défaire de leur éternelle image de perdant qui leur colle à la peau depuis plus de 20 ans.
Au Liban, errance et espérance de milliers de déplacés.
Le retour est impossible pour de nombreux d'entre eux, très difficile pour les autres. D'autant que le cessez-le-feu, entré en vigueur il y a 3 jours, est toujours très fragile. Le gouvernement libanais a averti des dangers d'un retour précipité ces derniers jours. Et hier, un haut dirigeant du Hezbollah a appelé les habitants rentrés dans le sud du pays à quitter leur village. Ils sont plus 1 million à avoir été déplacés par le conflit débuté le 2 mars. Et même si Israël a annoncé ce samedi avoir établi une ligne jaune de démarcation dans le sud du Liban, même si l'armée de l'État hébreu a par ailleurs procédé à des démolitions de bâtiments dans cette zone, eh bien ces Libanais veulent tout de même retrouver leur maison, comme ici à Tyr, la grande ville du sud, à 20 km de la frontière israélienne, où s'est rendue notre correspondante Sophie Guignon.
Sur la corniche de Tyr, seule la mer n'a pas changé. La famille Ratillé souffle après avoir découvert Cana, leur village à 15 km. Fatima, 8 ans, est sous le choc.
On est venu ici pour voir la vue, changer d'air. C'est très beau ici. J'aime l'atmosphère. À Cana, il y a beaucoup de maisons détruites, mais pas toutes. Mon cœur part en miettes quand je vois les destructions.
Ali, son oncle, garagiste, raconte les difficultés du retour dans leur village auquel il ne se résigne pas.
Dans notre ville, presque tout est détruit. On a dormi dans notre maison. Grâce à Dieu, elle tient encore debout. Mais il n'y a pas grand monde là-bas. Il n'y a plus d'eau, ni d'électricité, ni d'épicerie. Il n'y a pas de magasin pour faire ses courses. Les gens descendent des villages à Tyr pour ramener de la nourriture pour leur famille. Et ils remontent au village.
Pour Ali, l'offensive israélienne au Liban est une punition collective contre la population.
Les Israéliens disent « ici il y a une cible » et ils bombardent. Mais la réalité c'est qu'ils détruisent tout, les maisons, les infrastructures électriques. Moi je pense qu'ils ne veulent pas laisser vivre les chiites. Depuis qu'on est né, on ne vit que des guerres.
La famille espère qu'il sera possible de reconstruire leur vie à Cana, malgré une trêve fébrile. Sophie Guignon, Rita Basile, de retour de Tyr, RFI.
Par ailleurs, toujours au Liban, un casque bleu français a été tué ce samedi et 3 autres blessés. Attaque fermement condamnée par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il s'agit du 3e incident ces dernières semaines et a entraîné la mort d'un casque bleu de la FINUL. Le Hezbollah a démenti toute implication alors que la France, comme l'ONU et la présidence libanaise, l'avaient pointé du doigt.
Le Hezbollah dont le désarmement est une question centrale.
La trêve en cours doit durer encore 1 semaine. Son prolongement dépendra justement de la capacité du gouvernement libanais à désarmer le mouvement chiite pro-iranien. Souvenez-vous de cette première tentative l'été dernier qui s'était révélée infructueuse. C'est par le tir de 2 roquettes de la milice le 2 mars que tout le pays a basculé dans une nouvelle guerre. Un désarmement qui s'apparente toutefois à un vrai casse-tête, Noé Pignède.
Avant la reprise des hostilités début mars, le désarmement du Hezbollah par l'armée était bien en cours. Mais 6 mois n'ont pas suffi à neutraliser tout son arsenal. Le faire en 10 jours, c'est donc évidemment mission impossible. La zone d'occupation israélienne s'est élargie et l'occupation, c'est la raison d'être du Hezbollah. Le parti est né en réponse à l'invasion israélienne de 1982. Aujourd'hui, les habitants frontaliers constatent une nouvelle fois que l'armée régulière est incapable de défendre leur village, car comparé au Hezbollah, l'armée libanaise est faible. Pas d'aviation, pas de défense antiaérienne, pas d'arsenal suffisant pour contrôler les frontières. Tacitement, c'est Israël qui empêche ses alliés occidentaux de vendre de l'armement lourd au Liban. L'État hébreu dit vouloir chasser le Hezbollah, mais ne veut pas que l'armée libanaise soit capable de se défendre contre ces invasions répétées. Dans ces conditions, difficile d'imaginer que le Hezbollah rende ses armes, d'autant que la milice reste très soutenue par une grande partie de la communauté chiite et qu'une reprise en main de son arsenal par la force pourrait mener à la guerre civile.
Situation extrêmement tendue, on l'entend, au Liban, tension aussi en Iran, alors que le cessez-le-feu avec les États-Unis expire dans 3 jours, le détroit d'Ormuz est déjà refermé. Après seulement quelques heures de réouverture, l'Iran qui verrouille de nouveau le détroit en représailles au blocus de ses ports par les États-Unis. Téhéran a annoncé reprendre le contrôle strict de ce point de passage stratégique par lequel transite en temps normal 1/5 du commerce mondial de pétrole et de gaz. Au moins 3 navires commerciaux ont été visés par des tirs en tentant de franchir le détroit ces dernières heures.
Dans ce journal également, Martin, RFI, qui donne la parole cette semaine aux réfugiés de la guerre au Soudan.
Qui est entré dans sa 4e année ce 15 avril. Les 7 épisodes de notre série sont à retrouver à l'onglet Reportage Afrique sur notre site internet RFI.fr. Série qui nous mène au Tchad, en Égypte, mais aussi au Soudan du Sud, sur les quelques 4,5 millions de Soudanais ayant fui leur pays. Près de 500 000 ont trouvé refuge au Soudan du Sud voisin, selon le Haut Commissariat aux réfugiés. L'un des plus grands camps qui les accueille est celui de Gorom, situé tout près de Djouba, la capitale. 20 000 réfugiés s'y trouvent dans la plus grande précarité, encore plus depuis les coupes budgétaires américaines. Florence Tumeto.
Une 50aine de femmes sont assises à l'ombre d'un arbre, serrées les unes contre les autres, à même le sol, juste à l'entrée du camp de Gorom. Elles attendent la distribution mensuelle d'argent liquide, environ 10 dollars par personne, une aide dont les bénéficiaires sont désormais scrupuleusement sélectionnés tant les fonds manquent, nous explique Maker Deng, représentant du HCR à Gorom.
Nous faisons face à des problèmes pratiquement tous les jours, mais nous ne pouvons quasiment rien faire à cause des coupes budgétaires. Nous limitons notre assistance aux plus vulnérables.
Depuis la coupe des financements humanitaires début 2025, tous les services du camp s'effondrent. Initialement conçu pour 400 élèves, l'école du camp en accueille aujourd'hui 4000 et il n'y a pas d'argent pour payer assez d'enseignants. La santé est un autre secteur dévasté.
Des réfugiés meurent au centre de santé primaire de Gorom, car nous ne pouvons pas les transférer à l'hôpital universitaire de Djouba. Les médecins qualifiés qui travaillent ici à Gorom sont partis car les salaires sont maintenant trop bas. Le suivi en natale n'est plus offert. Et les accouchements qui avaient lieu ici ne sont plus possibles car il n'y a plus de sages-femmes. Les coupes budgétaires ont eu un impact terrible pour les réfugiés.
Selon le responsable, le financement de l'autonomie économique des réfugiés comme les microcrédits ou les formations a été entièrement stoppé. Ce qui pousse certains habitants de Gorom à s'aventurer dans les mines d'or artisanales du sud de Djouba, des zones où leur sécurité n'est pas garantie. Florence Mietto, de retour de Gorom, RFI.
L'actualité africaine de ce dimanche marque également par la suite de la tournée du pape Léon XIV. Il n'est que le 3e souverain pontife de l'histoire à se rendre en Angola. Arrivé ce samedi, Léon XIV se rend ce matin à Kilamba, non loin de Luanda, pour une messe géante en plein air qui débute dans 1 heure, avant de se rendre à Mushima, petite ville située à 130 km de la capitale et haut lieu du catholicisme en Afrique australe.
10h08 à Sofia, la capitale de la Bulgarie, pays le plus pauvre de l'Union européenne.
Et pays en pleine crise politique. Les Bulgares sont invités à se choisir un nouveau Premier ministre pour la 8e fois en 5 ans. Les bureaux de vote ont ouvert il y a 3 heures en Bulgarie. De nouvelles élections législatives sur fond de crise économique aussi, alors que le pays a adopté l'euro comme monnaie au mois de janvier. C'est l'ancien président Roman Radev, très favorable à un rapprochement avec la Russie, qui fait figure de favori. Cet ancien pilote de chasse qui connaît bien les arcanes du pouvoir a su capter l'exaspération de la population bulgare. C'est en tout cas l'analyse qu'en fait Romain Le Quignou, directeur du centre de réflexion Eurocréative.
Oui, il n'est pas prédestiné à ça. Et puis, encore une fois, Roman Radev est au cœur du système depuis de nombreuses années. Vous savez, quand on est président pendant 2 mandats, même si les prérogatives sont beaucoup plus limitées que celles d'un Premier ministre, on ne peut pas faire semblant de dire qu'on est contre le système. Mais toujours est-il, son narratif a marché. Il est effectivement contre la corruption. Il a surfé sur un mouvement de colère qui dure depuis très longtemps en Bulgarie, qui dure depuis des années. Donc aujourd'hui, il y a véritablement un enjeu de changement en Bulgarie. Mais ce changement n'arrive pas malgré la mobilisation des citoyens dans les rues. Et je pense que c'est le dernier enjeu de ces élections. Est-ce que les citoyens viendront voter? Est-ce que les citoyens bulgares viendront véritablement voter aujourd'hui? Et pour qui? Parce qu'il y a un certain désenchantement, en tout cas, de l'expérience démocratique en Bulgarie ces dernières années. Et dans une certaine mesure, je pense qu'on peut le comprendre.
Des propos recueillis par Julien Chavannes, les élections législatives bulgares que nous suivons tout au long de la journée sur RFI. Les bureaux de vote qui referment leurs portes à 17h, temps universel.
Sur le continent asiatique, l'Inde s'écharpe autour de la parité.
Alors qu'un texte de loi historique vient d'être retoqué, il devait introduire un tiers de sièges parlementaires minimum réservés aux femmes. Le BJP, le parti de Narendra Modi, dénonce un sabotage et une insulte aux femmes de la part de l'opposition, qui de son côté invoque un calcul politique caché derrière ce quota, ce qui a entraîné des débats pour le moins enflammés au Parlement. Abdoulaye Rally.
L'opposition applaudit. Le président du Parlement vient. Des soirées comme celle-ci à regarder le ciel illuminé par les tirs de mortier. 48 ans de ma vie sur cette planète et je revois mon pays en fouillant bien dans ma tête. Mais ma mémoire me trahit comme mes alliés, des souvenirs qui n'attendent que d'être coloriés. Et Kaboul reste présente autant que la guerre. D'abord les Russes et puis mes propres frères. J'en ai passé des soirées comme celle-ci à décrocher le téléphone incessant qui menace de me tuer. 3 décennies et 9 années sur la terre. Je repense à mon parcours et ma descente aux enfers. Récemment ils s'en sont pris à ma famille, alors je vis séparément de ma femme et mes filles. Logé dans un hôtel au cœur de Manhattan, j'attends patiemment comme le font les montagnes. Commandant d'une armée de paysans, cultivateurs de la terre, de boulangers, d'artisans. Une poignée d'hommes libres comme le vent. D'adolescents avec la guerre dans le sang. J'ai passé ma jeunesse dans le camp des résistants. Je voulais être architecte, ingénieur d'Afghanistan. Mais certainement pas un homme politique. Un chef de guerre, une figure emblématique. 1965 fut l'année de l'aveugle qui voit, mais le martyr a sonné. Je le sais plus que tout désormais que je serai mort avant de voir mon peuple en paix. C'est de famille de mourir violemment, mon père et ses frères, et à mon tour maintenant. J'aurais tenté de laisser un monde meilleur, plus de justice pour les gens de couleur. Un jour ou l'autre je paierai de mon sang le prix d'une liberté arrachée à l'innocent. Inutile de s'enfuir de notre mort, on ne s'échappe jamais du filet de notre sort. L'islam, mon seul rempart dans cette vie, une religion de paix, c'est de terreur qu'on la qualifie. Je prends mon rôle comme un don venu du ciel, et quand ça tourne mal, je tends les mains vers le ciel.
de retour du berceau de l'humanité. Un pèlerinage nécessaire qui m'a rendu mon humanité. L'immunité de l'afro-américain qui combat pour ses frères à la recherche du bien. Depuis ma rupture avec la nation, je suis venu à me poser tout un tas de questions. Le genre de questions sur le sens de ma mission. Et si les plans n'étaient pas tous des démons, je sais pertinemment où ces idées me conduiront. Vers une mort certaine ou en erreur elles m'induiront. Et peu importe désormais où j'irai, parsemé d'embûches sur les chemins de la vérité. La capitale est sous contrôle taliban. Des étudiants du livre qui le comprennent comme des ânes. C'est toute une nation qui part en fumée. Des dirigeants corrompus et leurs promesses consumées. Nos sœurs et nos mères interdites d'éducation. Plus qu'un pas en arrière pour ma civilisation. Indifférence totale de l'Occident qui croit encore que la guerre se déroule sans incident. Ma résistance telle une bouteille à la mer qui s'échoue sur une île inhabitée comme le désert. Mais il reste en mon peuple assez d'espoir pour maintenir les rangs, changer le cours de l'histoire. Et les médias m'assimileront à la haine. Le noir énervé au moindre mouvement des gaines. Précurseur du soulèvement des ghettos et responsable incontesté des émeutes à Soweto. Comprenez-moi, les blancs brisent ma vie, assassiné mon paternel et démantelé ma famille. Des familles d'accueil au redressement dans des maisons. De l'escroc d'Harlem jusqu'à la case prison. Tout est de façon pour que le noir échoue. Des illusions comme de faire croire que nous sommes nés dans des choux. Alors je vis chaque jour comme le dernier et spécule sur mon propre décès.
Between the black revolution and the negro revolution, there's a difference. When you study the historic
nature, Mr. Chor Pakistani, 16 Pakistani kushte shode ke dar jumle ek nafar banam major major tawrat as
des morts sa nègre rouge.
Et la première chose, ça c'est la l'aide de Dieu. Et la deuxième chose, ça c'est que nous, Moudjahed, tous on s'est très courageux.
Dimanche, le 9e jour de septembre, j'ai rendez-vous avec la presse du monde arabe dans l'antichambre. De reporters sympathiques en apparence, au visage trop souriant qui m'inspire la méfiance. Dimanche, 21e jour de février, je me rends à l'eau du bon ballroom sans me faire prier. Le public m'attend alors, je me presse. Une série de rendez-vous dominicales sans la presse. Dans ma carrière de militaire qui résiste, j'ai eu l'honneur de rencontrer des centaines de journalistes. Mais aucun qui venait de l'Arabie, alors expliquez-moi pourquoi ils m'interrogent aujourd'hui. Je retrouve mon équipe dans les coulisses, le référent sera absent, mais mon assistant novice le remplacera le temps d'un discours, le temps qu'on vérifie les portes de secours. Poignée de main solennelle, embrassade fraternelle, je maintiens mes distances d'un réflexe habituel. Que la paix soit avec vous, voyageurs, que la paix soit avec toi, Massoud le sauveur. Ces derniers temps, j'ai fait office de lampe torche pour éclairer mon peuple, sorti la lampe de ma poche. Mais je sais bien qui complote autour de moi, en plus des anciens coreligionnaires, ça pue la CIA. Admiratif d'un combat hors du commun, je vous salue frère Massoud de la part de tous les miens. Peut-être avez-vous quelques questions à poser, faisons besogne avant que l'heure de prier vienne s'imposer. Depuis mon arrivée sur scène, des hommes étranges me fixent, des têtes inconnues dans les meetings de Malcolm X. Que la paix soit avec vous frères et sœurs, que la paix soit avec toi notre frère pasteur. Dites-moi commandant, êtes-vous prêts à mourir? Croyez-vous que votre esprit méritera le martyr? Mais qui êtes-vous? Quel genre de questions posez-vous? Et pourquoi la caméra n'est pas branchée mais sur vous? Et soudain, au 10e rang c'est la cohue. Arrête de fouiller dans ma poche négro, tu crois que je t'ai pas vu? Calmez-vous mes frères, soyez disciplinés. Reprenez votre place que l'on puisse continuer. Des ceintures d'explosifs contre le ventre, ils acclament la grandeur de Dieu et mettent fin à l'attente. Dans la pièce des fragments de peau se déchirent. Ce soir le lion est mort dans la vallée du Panjshir. J'allais poursuivre mais j'aperçois un homme armé. Je crois que c'est un noir, ils sont plusieurs à s'énerver. Saisissant les événements, un dernier sourire assez noir. Assassiné par ses frères sous la panthère noire.
چشم ما همه تو چشم انتظارها ستاره می کند بشفت یگان یگان شما
tir à Harlem. Le combat reste le même. Le même.
Le mix des cultures.
Ah tiens Bill, on va passer un super disque. Alors tu mets le disque. Mets le disque, tu mets juste le bras du pick-up sur le truc en cire et tout.
It was just a trick, wasn't it?
Of course, but...
But how did you do it?
Oh, no.
Well, if you won't explain that one, do another trick for us, huh?
Por internet.